Donc là, nous allons poursuivre nous allons poursuivre notre colloque dans le voyage du psychotraumatisme et du sens. Et là, on va rentrer dans le sens. À vous de voir quel sens vous voulez mettre sur le mot sens. Donc, nous allons quitter l'univers fascinant mais parfois très technique du cerveau et entrer dans ce qui est peut-être moins palpable mais qui fait le mystère de l'être humain, qui est sa quête existentielle. Je continue un peu à parler tant que tout le monde n'est pas là, pour après laisser la place à notre conférencier. Voilà le président. Ça va commencer officiellement. Donc, on a pu voir au cours de ce colloque, et c'était vraiment ça l'objectif, qu'il fallait prendre en compte dans nos accompagnements thérapeutiques cette question, cette notion de figement traumatique. Et que si on ne comprenait pas qu'on pouvait avoir des interventions dommageables dès lors que l'on ne prenait pas en compte cette émotion, ce trauma, cet enquistement de l'émotion dans ce figement traumatique, on ne pouvait pas aller vers l'ouverture, vers le sens, vers un questionnement qui est porté par notre cerveau cortex. Donc, là, nous allons entendre Charles Rochman, qui va nous faire vivre, en tout cas en imagination, pas trop longtemps pour ne pas nous traumatiser, mais un horrible conflit qui est le génocide du Rwanda. Et on va également rentrer dans une autre dimension, en fait, que celle que l'on a abordée ces jours-ci, qui est la dimension collective. C'est-à-dire comment notre mémoire collective porte aussi des traumatismes que l'histoire de ce groupe, du groupe, ne peut pas intégrer non plus. Et dans son récit autobiographique, dans son récit identitaire. Donc là, vous allez nous parler de ce conflit et vous allez nous parler de la méthode que vous employez pour résoudre, aider à dépasser les conflits collectifs. Alors merci d'être là aussi, à vous, je sais que vous n'aviez pas beaucoup de temps, vous allez devoir nous quitter je pense après, vous ne serez pas là en fin de journée pour...
Journée,
vous, vous resterez là?
Jusqu'à 17h30, 17h40.
Okay, très bien. Alors, vous m'avez dit que vous étiez d'accord pour laisser un temps pour les questions dans votre intervention.
Un petit temps.
10 minutes, ça ira?
10 minutes.
Voilà, pour que la salle ne soit pas frustrée, pour que... On retrouve cette dynamique que l'on avait hier pour un petit temps question-réponse. Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous avez créé le Centre international de formation et d'intervention en thérapie sociale, l'Institut Charles Rochman. Donc, vous êtes le fondateur de cette discipline, que vous dites que c'est une forme nouvelle de psychothérapie et d'éducation. Je dis vous dites parce que dans les modèles qui nous sont présentés, certains disent « mais finalement, on n'invente rien ». On ne fait que refaire, reformer les choses différemment, mais en tout cas, vous vous positionnez comme étant un éducateur à la vie démocratique. Et effectivement, vous intervenez beaucoup dans les banlieues, dans des situations très conflictuelles, de violence. Et vous, que puis-je dire encore sur ce que vous faites? Vous enseignez maintenant cette discipline aux États-Unis, à l'Université Temple de Philadelphie. Voilà, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont les deux derniers, « Sortir de la violence par le conflit » et « Bien vivre avec les autres ». Je vous laisse la parole pour cette intervention attendue.
Merci. Bonjour. Le Rwanda est loin, comme le Congo à côté, comme tous ces pays des Grands Lacs. 5, on ne sait pas exactement, 6 millions de morts en 20 ans. On n'en parle pas beaucoup, donc moi je vais vous parler du Rwanda, mais je vais surtout vous parler de nous, parce que le Rwanda et nous, en fait c'est pareil. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que le Rwanda n'est pas si loin de nous, et que nous ne sommes pas aussi loin que cela du Rwanda. Je tenais à remercier les organisateurs de m'avoir invité, parce que je me sens très concerné par ces questions de psychotraumatisme collectif et individuel, bien sûr, et aussi par la question du sens. D'abord pour des raisons personnelles. J'ai été moi-même victime de psychotraumatisme grave, puisque je suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'au moment de ma naissance, mes quatre frères et tous mes grands-parents ont été assassinés, à peu près, d'après ce que j'ai cru comprendre, dans le mois de ma naissance, c'est-à-dire au mois d'août 1942. Et donc, j'ai vécu toute mon enfance dans la peur et dans toutes les conséquences de ces psychotraumatismes de guerre. J'ai vécu l'énurésie jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai vécu des difficultés scolaires, difficultés de comportement, vagabondage sexuel, enfin tout ce qu'on dit des conséquences en général des psychotraumatismes collectifs. Et j'ai dû passer ma vie à essayer de trouver un sens à tout cela, à trouver un sens à cette violence collective qui, au début, m'était apparue comme totalement absurde, qui nous apparaît d'ailleurs certainement à tous absurde. Et donc, c'est important d'y trouver un sens, important pour les gens qui, comme moi, ont été concernés par toute cette violence, mais important aussi pour nous tous. C'est très important. J'ai appris une chose aussi qui a compté beaucoup dans ma vie. Je l'ai apprise en raison de paroles de ma mère. Ma mère qui me disait, quand j'étais enfant, « Mon pauvre garçon, tu es fou à cause de ce que les Allemands t'ont fait. » J'étais un enfant caché pendant la guerre, mais ma mère me disait cela, « Tu es fou à cause de ce que les Allemands t'ont fait. » Et c'est donc ainsi que je comprends maintenant qu'il y a un lien entre la violence collective, dont ma famille a été victime, mais aussi la violence de ma propre mère, de mon propre père, la violence de mon milieu familial. Et donc, cela m'a aidé à comprendre qu'il y avait un lien entre le collectif et l'individuel. Donc, première découverte importante de ma vie. La deuxième découverte, je l'ai faite à travers mon travail. Évidemment, ayant été moi-même victime de ces violences collectives, je me suis très tôt intéressé à la violence, à la question de la violence collective, et c'est ainsi que j'ai voyagé et travaillé en tant que psychothérapeute au Moyen-Orient, à Beslan, en Ossétie du Nord, avec les mères qui avaient vu tuer leurs enfants pendant la prise d'otages dont on se souvient encore, en Tchétchénie, au Guatemala avec les conséquences des guerres civiles, dans l'ex-Yougoslavie, aux États-Unis où les traumatismes de l'esclavage et de la vie des ghettos sont toujours présents chez les Africains-Américains, dans les banlieues françaises, évidemment, où j'ai passé aussi beaucoup de temps, comme l'a dit Michel Vineau, et enfin au Rwanda, dans cette Afrique déchirée par les massacres de masse, les viols et la maladie. J'ai appris quelque chose là, en particulier lorsque j'ai eu l'occasion de travailler aux États-Unis et que j'ai réuni des jeunes, hommes et femmes, de deux villes différentes. Camden, ville pauvre où domine la violence de la criminalité, les guerres des gangs, une des villes, paraît-il, les plus touchées par les guerres de gangs des États-Unis, et Cherryhill, la ville d'à côté, qui est une ville riche, une ville qui ressemble à toutes les villes riches que nous connaissons, avec une population blanche, majoritairement, contrairement à Camden. Et là, j'ai vu, et nous avons vu, les jeunes de ces deux villes ont pu se trouver une fraternité dans le fait qu'ils avaient tous été victimes de violences. Ce n'étaient pas les mêmes violences, ce n'étaient pas les mêmes traumatismes. Il y avait chez les jeunes de la ville de Cheryl des suicides, des mutilations volontaires, de la toxicomanie, de l'alcoolisme. Et d'autre côté, il y avait des assassinats, des vols, également de la drogue. Et je me suis rendu compte qu'entre ces deux villes, en fait, il y avait vraiment une communauté de destin et que la violence nous touche tous. J'ai eu l'occasion de travailler dans des endroits privilégiés de la planète, dans des endroits pauvres, dans des endroits comme l'Afrique, et je me suis rendu compte que les psychotraumatismes existent partout et que simplement la différence, c'est souvent une question de degré. Je me suis rendu compte, petit à petit, en travaillant avec des milieux favorisés, en travaillant aussi avec des thérapeutes, puisque je fais des formations depuis quelques années de thérapeute, à mes méthodes de thérapie sociale, je me suis rendu compte que les gens dits normaux, et en particulier la plupart, tous les thérapeutes, ont vécu eux-mêmes des traumatismes dont ils ne sont pas toujours conscients. Et ces gens normaux que nous sommes tous, nous avons appris à nous adapter et nous adaptons grâce à la violence que nous exerçons contre les autres. Des violences subtiles dont nous ne sommes pas toujours conscients, qui consistent à abandonner, à manipuler, à culpabiliser, à maltraiter les autres. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important dans ce début que je voudrais signaler, c'est le fait que nous sommes tous, sans exception, touchés par des psychotraumatismes. Le Rwanda maintenant. Le Rwanda, je l'ai expliqué dans les textes que vous avez eus entre les mains, 53% de souffrances traumatiques, des familles démantelées, problèmes économiques, des enfants chefs de famille, des filles mères, des viols, sida, maltraitance. Bon, tout ça, on connaît. Au Rwanda, j'ai travaillé dans un premier temps, j'ai fait une première intervention à former à la thérapie sociale, des leaders religieux, catholiques, protestants, musulmans, des universitaires, des psychiatres, des médecins, des ONG, des syndicalistes. Dans une deuxième action que je commence maintenant, il s'agira de former des gens qui eux-mêmes vont former dans les villages, dans un grand nombre de villages du Rwanda, des sortes d'assistants de santé mentale pour créer de la réconciliation et pour donner du sens à ce qui s'est passé. Et dans ces actions, ces gens que je forme, et je les ai accompagnés, supervisés, ils réunissent à la fois des gens qui ont commis le génocide, qui sortent de prison, après des années de prison, et qui ont été libérés, et qui doivent désormais vivre avec les survivants dont ils ont massacré la famille, puisqu'ils reviennent dans les villages dont ils sont issus. Et donc il y a un travail à faire de réconciliation et de guérison justement des traumatismes. Alors donc la question c'est comment guérir ? Comment prendre soin des blessures individuelles qu'ont vécues les gens ? Comment donner un sens à cette histoire épouvantable, bien sûr ? Comment prévenir enfin de nouvelles violences collectives, l'envie de vengeance et le cycle infernal qu'on connaît dans de nombreux pays ? Et enfin, pour quelle société se battre, puisque les deux sont liés, c'est-à-dire ce qu'on vit dans la société est évidemment lié à ce qu'on vit soi-même en tant qu'individu. En un mot, c'est comment ne pas rester enfermé dans la haine, dans le ressentiment, dans le manichéisme, c'est-à-dire nous sommes des victimes, ils sont des bourreaux. Comment ne pas rester enfermé dans tous ces sentiments-là, être capable de coopération, et par exemple, concrètement, au Rwanda, c'est être capable de vivre ensemble dans les villages, être capable de travailler ensemble, être capable de créer des coopératives ensemble. Comment créer un cadre collectif qui ne soit pas anxiogène et qui ne réveille pas les blessures individuelles. Et donc, la question de ce colloque, elle est aussi la mienne, c'est comment développer la confiance et comment débloquer le figement traumatique. Donc je vais parler maintenant à la fois du Rwanda et en même temps parler de nous. Parler de nous qui, tous, avons vécu aussi ces traumatismes à des degrés divers. Alors d'abord, la première chose, c'est qu'il ne faut pas voir la victime du psychotraumatisme uniquement comme une victime. Et il ne faut pas focaliser l'attention sur lui uniquement. C'est-à-dire, lorsque je suis au Rwanda, avec des gens qui ont vécu ces choses horribles qu'on connaît, je ne vais pas travailler uniquement avec eux pour les aider à sortir de ce traumatisme. On va travailler avec tout le monde. On va travailler avec la communauté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces gens-là, ils sont comme moi qui ai vécu ces traumatismes. J'ai vécu. Ce sont des gens qui vivent, qui se sont adaptés et qui ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils font et des conséquences de leur traumatisme. Et là, c'est une idée essentielle de ce travail de thérapie sociale, c'est que les victimes ne sont pas responsables de ce qu'elles ont vécu. Nous ne sommes pas responsables des traumatismes que nous avons vécus. Mais nous sommes responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie. C'est un peu l'idée essentielle que je vais développer, l'idée essentielle de ce travail thérapeutique. La troisième chose, c'est que la violence n'est pas une fatalité venue de l'extérieur. J'ai passé toute mon enfance à croire que cette violence collective dont ma famille avait été victime ne m'appartenait pas, que moi j'étais indemne de cette violence. J'ai fini par comprendre que la violence était constitutive de moi-même. Donc, l'objectif de ce travail, c'est d'aider les gens, d'aider ces personnes, au Rwanda comme ailleurs, à sortir d'une vision figée d'eux-mêmes, une vision figée des autres, une vision figée du monde, qui va préparer d'ailleurs d'autres violences individuelles ou collectives. Donc je reviens sur cette idée essentielle. En thérapie sociale, on n'essaye pas de supprimer le traumatisme. On n'essaye pas de faire en sorte que l'être redevienne sain. Mais on prend soin de sa vie telle qu'elle a été forgée par le traumatisme. Quelle vision du monde a créé le traumatisme ? Donc, on ne travaille pas sur le traumatisme, mais sur les conséquences au quotidien, dans le présent, et avec un groupe, avec une certaine posture du thérapeute, et avec un processus thérapeutique spécifique. Alors la posture, c'est très important et elle demande évidemment beaucoup de travail pour le thérapeute, beaucoup de travail sur soi. C'est une posture qui a, je ne vais pas dire toutes ses spécificités, mais au moins seulement deux. La première chose, quand je viens au Rwanda, je dis toujours aux gens, je ne connais pas votre culture, je ne connais pas votre vie, je ne connais pas vos traumatismes, c'est vous qui les connaissez. C'est-à-dire, le thérapeute n'est pas un expert de la vie des gens, n'est pas un expert de leur culture, n'est pas un expert de leur traumatisme. C'est-à-dire qu'on ne réduit pas les gens à ce qu'on pense d'eux, on ne réduit pas les gens à une catégorie de post-traumatisés. Ça, c'est la première chose. Donc, ça permet au thérapeute de ne pas se placer dans une position de supériorité de celui qui sait ce qui est bien pour les gens. La deuxième chose, c'est que, en tant que thérapeute, on doit être conscient soi-même de ce qu'on a vécu et de ce qu'on fait aux autres. Ce qui veut dire être conscient de notre propre violence, non pas de façon théorique, c'est-à-dire je sais que j'ai de la violence en moi, etc., mais concrètement, en quoi consiste notre violence ? En quoi, je vais prendre quelques exemples, dévalorisation et mépris, en quoi nous méprisons les autres, en quoi, ou certains autres, en quoi nous les dévalorisons, en quoi nous avons de l'envie, en quoi nous avons de la voracité, en quoi nous avons de la paranoïa, une haine hallucinatoire qui nous fait voir des ennemis là où il n'y a pas d'ennemis. en quoi nous avons de la jalousie, en quoi nous sommes en rivalité avec les autres, en quoi nous avons de l'amour du pouvoir. Tout cela, ce sont des violences, en quoi nous sommes indifférents aussi à certains autres, en quoi nous sommes absents à certains autres, aussi bien dans notre propre famille qu'avec nos collègues, que dans la société. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience, et c'est aussi un moyen de ne pas se sentir supérieur, c'est prendre conscience de ce que nous sommes, de la violence que nous exerçons contre les autres ou contre nous-mêmes, dans les jugements que nous portons sur nous-mêmes, dans le fait que nous nous abandonnions, nous occupons pas de notre vie, de notre corps, de notre santé, dans notre culpabilisation, dans le fait que nous nous culpabilisons nous-mêmes. Toutes ces violences subtiles, plus ou moins subtiles, que nous exerçons contre les autres ou contre nous-mêmes. Et c'est aussi pour nous une manière de ne pas nous sentir supérieurs aux gens avec qui nous travaillons. C'est-à-dire que lorsque je suis en face de Rwandais qui ont été victimes ou qui ont été des assassins, je sais que je ne sais pas plutôt ce que j'aurais été placé dans ces mêmes circonstances, avec la même éducation, avec le même environnement social et politique. Je sais que j'ai en moi ces mêmes racines de violence et de haine que tous. Et donc ça, c'est très important. C'est une posture qui vous permet de travailler avec tout le monde et de ne pas considérer que vous êtes un être à part en tant que thérapeute et que vous êtes un être supérieur. Maintenant, quelques mots sur le travail avec le groupe. La première chose, c'est que dans ces groupes de thérapie sociale, les gens ne vont pas parler de leur violence, de leur traumatisme, de leur folie, qui est la conséquence du traumatisme, ou de leur part de folie. Ils ne vont pas en parler, mais ils vont la vivre. Ils vont vivre cette folie dans les relations, conséquences des traumatismes, bien sûr, dans les relations avec les autres. Et ainsi, en étant progressivement, peu à peu, grâce au processus thérapeutique qu'on met en place, petit à petit, ils vont se montrer tels qu'ils sont. Et ils vont montrer, évidemment, à la fois leur souffrance, mais aussi leur violence. Et ainsi, grâce au regard de miroir du groupe et du thérapeute, ils vont prendre conscience de leur vision du monde, de leur vision d'eux-mêmes, de leur vision des autres, de leur relation à l'autorité, etc., etc. Ils vont prendre conscience de ce qu'ils font, qui est la conséquence de leur traumatisme. Et je dirais même de ce que nous faisons tous, qui est la conséquence de toutes les violences que nous avons subies dans notre environnement familial et social. Tout sans exception. Je travaille depuis des années avec toutes sortes de publics, dans toutes sortes de milieux, dans toutes sortes de pays, avec des thérapeutes, avec des managers, avec des policiers, avec des jeunes de banlieue, des mères de famille, pères de famille. Je n'ai vu personne qui n'ait pas été victime de violences dans sa vie, de violences familiale et ou sociale. Et personne qui n'exerce pas de violence contre les autres. La deuxième chose qui se fait dans ce travail avec le groupe, c'est qu'ils vont, en se réconciliant avec leur part d'ombre, en regardant leur propre violence, ils vont réhumaniser les autres. Ils vont se rendre compte que les autres sont des êtres humains comme eux, et non pas les diaboliser. Non pas s'idéaliser eux-mêmes et diaboliser les autres. Dans un groupe qui réunissait des Palestiniens et des Israéliens, un moment clé, c'est quand un Palestinien, après évidemment tout un processus et après beaucoup d'accusations réciproques, un moment, un des Palestiniens a dit aux Israéliens « Maintenant, je vous vois toujours comme des adversaires, comme des ennemis, mais vous êtes des êtres humains pour moi. » Et c'est ce processus de réhumanisation qui vraiment est important. La troisième chose, c'est qu'ils vont comprendre, grâce à ce travail en groupe, ils vont comprendre ces phénomènes de groupe. Ils vont comprendre ce qui peut propulser à la violence collective quand les conditions d'environnement social et politique sont favorables. Et cette compréhension va donner au groupe une intelligence collective et va donner un sens à ce qui s'est passé. Au Rwanda, comme ailleurs, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe autour de nous. Le quatrième point ensuite, qui est très important, c'est qu'ils vont mettre dans le groupe en pratique un changement. C'est-à-dire, prenant conscience de leur violence, ils vont apprendre à être en conflit sans violence, ils vont dépasser cette vision figée qu'ils ont d'eux-mêmes et des autres, et ainsi arriver à une action commune. Et c'est cette action commune, c'est le fait d'agir ensemble qui permet de sortir de l'impuissance et donc de la dépression. C'est-à-dire que lorsque les gens au Rwanda sont réunis, ils ne sont pas réunis pour se libérer de leur psychotraumatisme, ils sont libérés pour une œuvre commune. L'œuvre commune, c'est vivre ensemble dans ce village, travailler ensemble, créer une coopérative. C'est, par exemple, décider ensemble des restitutions, des indemnisations qui doivent être décidées. C'est-à-dire, dans tout ce travail de thérapie sociale, il faut toujours qu'il y ait un objectif qui est un objectif social qui réunit les gens autour d'une action. Et c'est cette action qui va aussi avoir un effet thérapeutique. Enfin, la question du sens. Je disais tout à l'heure, au début de cette rapide intervention, que moi j'avais cherché toute ma vie le sens de tout ça, le sens d'une vie absurde. Eh bien, je pense que ce qui donne un sens, c'est pas un sens venu de l'extérieur, à travers une religion, à travers une idéologie. Ce qui donne un sens à la vie, c'est la conscience de notre violence et de notre folie. C'est ça qui nous permet de retrouver le contact avec la réalité. Et c'est ce rapport à la réalité qui soigne. Le sens, c'est être au bon endroit, au bon moment. C'est être soi-même, sans une image idéalisée ou diabolisée de nous-mêmes, qui justement nous empêche de voir cette réalité. Le sens, c'est retrouver la réalité en sortant de l'absurde, en se délivrant de la peur lorsqu'elle n'est pas justifiée par un danger réel. C'est ce qui permet de se délivrer de la haine, de la violence. Et la violence, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le conflit. La violence, c'est vraiment une image figée qu'on a des autres, de soi-même et du monde. Donc je parle ici d'une pratique. Pratique de thérapie sociale qui est difficile, qui doit s'apprendre évidemment. Dans un premier temps, je dirais que dans un premier temps de cet apprentissage, il s'agit d'abord de savoir contenir la folie en permettant à un groupe de reprendre confiance, d'être motivé par une tâche à accomplir et de sortir ensemble du sentiment d'impuissance par l'action. Alors, dans ce travail-là, dans cette première étape, je dirais, on ne soigne pas la violence et la folie des personnes. On crée un cadre qui permet de diminuer les conséquences néfastes de ces folies individuelles. C'est pour ça que je parle de thérapie sociale. C'est-à-dire, c'est le fait d'être ensemble qui va permettre de se libérer des conséquences de nos psychotraumatismes. Cet apprentissage, c'est un métier. C'est un métier que j'appelle d'intervenant en thérapie sociale. Mais on peut aller plus loin, on doit aller plus loin, et dans un deuxième temps, il faut prendre soin de l'âme blessée, et on prend soin de l'âme blessée en prenant soin des conséquences de nos blessures. Non pas en allant voir simplement les blessures, mais en voyant ce que les blessures ont provoqué en nous dans notre vie réelle, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire la victimisation, c'est pas moi, c'est l'autre. La non-responsabilité, la relation de dépendance, soumission, rébellion à l'autorité, la haine de soi et la tentation totalitaire et manichéenne, qui est quelque chose qui nous menace toujours lorsque nous n'arrivons pas à trouver un sens à la vie. Ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui où nous voyons que tous les malaises individuels qui existent dans toutes les sociétés aujourd'hui, pas seulement au Rwanda, mais aussi en France, en Italie, aux États-Unis, partout en fait où j'ai travaillé, ces malaises individuels fabriquent le malaise collectif. Et d'un autre côté, les institutions de la société, la politique, fabriquent aussi le malaise individuel. Les traumatismes graves, tels que les vivent ou les ont vécus les Rwandais, les Bosniaques, les Syriens, tels qu'ils les ont connus ou les connaissent encore, se fabriquent à l'avance, longtemps à l'avance, dans le cœur des hommes et des femmes, dans les familles et les organisations. Si je dois donner un message pour terminer, je dirais « soyons vigilants et conscients, parce que nous sommes, nous aussi, menacés par cette transformation de nos malaises individuels dont nous ne sommes pas toujours suffisamment conscients, en malaises collectifs qui peuvent dégénérer en traumatismes graves pour notre société. » Merci beaucoup. Donc, comme on l'a dit, il y a un peu de temps pour des réactions ou des questions.
C'était fort, hein. J'avais cru qu'ils allaient dormir, mais non, pas du tout. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Il y en a plein. Hervé. Normalement, il y avait Bon, je t'apporte le micro.
Et juste une appréciation que je voudrais vous demander, c'est comment la violence arrive à devenir une thématique dans ces groupes? Comment elle apparaît comme thématique?
Je ne sais pas si j'ai bien saisi le sens de la question, parce que pour moi, la violence est présente dans toutes les relations humaines.
Oui.
C'est-à-dire, lorsque toute relation humaine qui n'est pas... coopérative, joyeuse et pleine d'amour, est une relation dans laquelle il y a de la violence. Mais on n'appelle pas ça toujours de la violence parce qu'on est habitué à considérer la violence sous la forme de la maltraitance, en particulier physique ou morale. On oublie toujours que l'abandon, l'humiliation, la culpabilisation, c'est aussi ça fait partie des formes de la violence. Et ces violences existent partout, dans tous les milieux, dans les sociétés de thérapeutes, dans les organisations, dans toutes les organisations, dans les écoles, partout, et dans nos familles, bien sûr.
Mais les participants au groupe amènent cette thématique?
Oui, bien sûr, puisqu'ils parlent, si vous voulez, le début du processus consiste à faire en sorte que les gens baissent le masque de « tout va bien, j'ai des problèmes à cause des autres », etc. Et ils commencent à parler de leur souffrance. Et... quand ils ont la possibilité de parler de leur souffrance, ils parlent de la violence qu'ils subissent de la part des autres.
Mais ils la nomment en tant que telle ou
Oui, absolument.
Ils parlent de violence, du mot violence.
Ils ne disent pas forcément le mot violence, ce n'est pas le mot qui est important. C'est ce qu'ils disent de ce qu'ils souffrent. Et le premier pas dans le processus, c'est que les gens ont le courage. Je pense, si je prends l'exemple du Rwanda... c'est que au début, évidemment, les gens se regardent en chien de faïence. Au début, il y a les méchants qui ne disent rien et qui sont persuadés qu'ils vont être accusés parce qu'ils ont été en prison et ils ont été des génocidaires, les victimes. Et petit à petit, les gens ont un espace où ils vont parler de la souffrance, d'avoir été en prison, d'avoir été meurtrier. Un homme dit qu'il a... par exemple, dans un groupe auquel j'ai assisté, dit par exemple qu'à l'âge de 10 ans, 12 ans, on lui a mis un sabre dans la main et on lui a demandé de couper la tête des bébés. Et il l'a fait et il explique la souffrance que ça a été, tout ce qu'il a vécu, la souffrance que c'est de se sentir coupable, etc. Évidemment, les victimes, les survivants expliquent, parlent de leur souffrance. Donc, dans le début, les gens parlent de la violence comme étant ce qui les fait souffrir, mais de la part des autres. Et petit à petit, dans le processus, les gens, prenant davantage confiance, commencent à parler de leur propre violence et de leur part d'ombre et de ce qu'ils font aux autres.
C'est bon, Hervé. Alors, il nous reste quelques minutes.
Oui, intervenir dans de telles situations semble une sorte de mission impossible. Et j'aimerais bien savoir un peu plus sur le processus justement que vous mettez en place et comment vous arrivez à intervenir, vous, en tant que sociothérapeute, dans des situations aussi explosives.
Je vous assure que ce n'est pas plus difficile d'intervenir au Rwanda que d'intervenir avec des thérapeutes français. C'est la même chose. Simplement, ce que les gens vont raconter, évidemment, c'est différent. Mais le travail qui est à faire, je dirais, est travailler avec des paysans du Rwanda qui ont une espèce de spontanéité pour parler, pour baisser le masque et parler de ce qu'ils ont vécu, c'est, je dirais, plus facile que de parler avec des gens qui ont l'habitude d'être blindés, de se protéger avec des mots, avec des théories. Je dis ça sans aucune nuance péjorative, malgré l'impression que ça peut donner. Mais c'est simplement pour dire que, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je travaille exactement de la même façon, puisque je ne prétends pas connaître ce que les gens vivent, leur traumatisme, c'est eux qui en parlent, et je leur donne la possibilité, justement, d'en parler. C'est pas plus difficile de le faire aux États-Unis avec des Noirs américains, à Beslan avec des mères comme ça m'est arrivé, j'ai travaillé quelques jours après l'attaque terroriste où des mères se sont réunies pour parler de ce qu'elles avaient vécu, c'est-à-dire des enfants qui avaient été tués pendant cette attaque terroriste. Alors évidemment, quand j'ai les mères en face de moi qui racontent leur souffrance, je pleure. Moi aussi, je pleure avec elles, parce que ça me rappelle aussi des choses que j'ai connues. Au Rwanda, c'est pareil. Au Rwanda, quand les gens parlent de la manière dont les gens ont été fusillés ou tués avec des machettes, moi, c'est ce que mes grands-parents et mes frères ont connu. Donc, je vis cela avec eux. Mais je vis aussi toutes les autres souffrances et toutes les violences que nous sommes tous peuvent rencontrer et connaître. Ce n'est pas plus difficile. Moi, je vous assure que travailler au Rwanda ou travailler en France, pour moi, c'est la même chose. Vraiment.
Alors, encore deux questions.
Oui. Alors, il y a un processus qui est dont je n'ai pas eu le temps, évidemment, de beaucoup parler. Mais le processus, c'est comment on peut créer les conditions pour que les gens, justement, parlent d'abord, aient le courage de parler de ce qu'ils vivent réellement, de façon concrète. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, des Palestiniens en face de moi, au lieu qu'ils disent « oui, nous vivons l'occupation de la terre par les Israéliens », qu'ils parlent réellement de ce qu'ils vivent au contact de tel ou tel Israélien, mais de ce qu'ils vivent aussi dans leur propre famille, de toutes les violences qu'ils subissent de la part de leurs frères, de la part de leurs voisins, etc. C'est-à-dire que les gens sont amenés à parler vraiment de leur souffrance dans le processus. Et ensuite, je dirais que la suite du processus, c'est quand les gens acceptent de parler de leur violence, acceptent de parler de ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, je l'ai dit dans mon intervention, c'est la conséquence du traumatisme. C'est-à-dire notre violence, elle nous sert à penser, je dirais, penser P-A-N-S-E-E-R, penser le traumatisme. Et c'est en découvrant notre violence que nous pouvons agir sur le traumatisme, c'est-à-dire que nous pouvons changer. Nous pouvons changer si nous devenons conscience de la violence que nous exerçons en réaction à ce traumatisme subi. Et c'est là que, effectivement, d'abord les gens peuvent se rencontrer, parce que si vous avez en face de vous des gens comme vous êtes indemne de toute violence, vous êtes une victime et vous avez des méchants, évidemment, il n'y a pas beaucoup de possibilités de vivre ensemble et de travailler ensemble. Mais ce qui se passe dans le processus, c'est que les gens se rendent compte qu'ils ont tous quelque chose à voir avec la violence et avec le traumatisme, c'est-à-dire que la violence est toujours une réaction. La violence n'est pas un problème, je le dis toujours, c'est une solution. C'est une solution au traumatisme, la violence, soit contre soi-même, soit contre les autres. Donc, c'est cette prise de conscience de la violence qui aide à trouver une fraternité avec les autres et aussi à comprendre ce qui se passe. Tant qu'on se dit, y a des méchants. Moi, quand j'étais enfant, on m'expliquait, il y a les méchants nazis, il y a les pauvres juifs, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. C'est absurde. Pourquoi ils font ça? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette cruauté? Ça n'a pas de sens. Donc c'est important de retrouver le sens en retrouvant en nous-mêmes, justement, ces clés de la violence. Et ça, je dirais que c'est ça le processus qui va permettre à la fois de créer une fraternité et une réhumanisation entre les hommes, qui va leur permettre de travailler ensemble, et en travaillant ensemble, de sortir justement de la dépression qui est liée à la violence. Bien sûr, la dépression, c'est un des résultats de la violence, c'est-à-dire la violence telle que nous l'exerçons ne nous permet pas d'agir dans le monde. Et c'est en agissant dans le monde et en agissant avec d'autres qui, au départ, pour nous, étaient des ennemis, qu'on arrive vraiment à transformer le monde. Et le but de ce travail, c'est pas seulement de guérir les individus, mais c'est aussi de changer le monde. Alors, le monde, c'est un grand mot, mais c'est changer au niveau où nous sommes, au niveau où nous pouvons, changer l'environnement dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que c'est un travail politique comme un travail thérapeutique. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire, on ne pourra pas guérir les individus si on ne guérit pas la société, et on ne pourra pas guérir la société si on ne guérit pas les individus.
Charles, il y a encore trois questions. Trois questions au moins. Donc, si on veut leur donner la possibilité d'élargir encore, je leur passe la parole.
Pratiquement, comment se formule la demande de thérapie sociale de la part des personnes auprès desquelles vous travaillez?
Alors, elle se formule souvent, en tout cas au Rwanda, elle s'est formulée, si je prends l'exemple du Rwanda, mais c'est pareil beaucoup, souvent ailleurs, elle se formule au départ par une autorité, et là c'est le gouvernement du Rwanda, qui veut créer une réconciliation pour que ce pays sorte de la guerre civile et que ce pays aussi ait un développement économique, psychologique, etc. Et sorte de cette situation de misère économique et aussi de misère psychologique et morale. Donc il y a une demande d'autorité qui veulent faire quelque chose par rapport à cette situation de réconciliation, et en particulier réconcilier les gens qui ont été soldats avec les civils, réconcilier les gens qui sont sortis après un processus un peu identique à ce qui s'est fait en Afrique du Sud, on appelle ça la gachassa, ils sont sortis de prison parce qu'ils ont avoué leurs crimes, mais ils doivent revivre dans les villages dont ils sont issus, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc là, au Rwanda, il y a une demande des autorités. C'est souvent le cas, mais on peut aussi pas imaginer, j'ai déjà travaillé par exemple dans des villes où la demande venait de gens de la base, d'associations, etc. Mais si on veut que cette action ait une ampleur plus grande et qu'il y ait une action, je dirais, plus politique, plus sociale sur l'environnement, c'est vrai qu'il faut s'adresser aussi à des autorités capables de mettre en place les changements souhaités par les gens. Mais l'intérêt de ce travail de thérapie sociale, c'est qu'il peut se pratiquer aussi au niveau individuel, parce que la posture est la même, le processus est la même, simplement l'objectif, ça ne sera pas le même. Si l'objectif, c'est une meilleure entente dans une famille, ou l'objectif, c'est pour quelqu'un de vivre mieux ou de se former à un nouveau métier, évidemment, ça va être différent, on va tenir compte de l'objectif. Ici, au Rwanda, l'objectif, c'est clairement la réconciliation.
Une dernière question.
Là-haut, ce peuple-là, il a vécu deux fois le génocide.
Oui.
Et est-ce que le processus de répétition est aussi abordé dans les groupes de travail avec vous? Et est-ce qu'on prévoit la fin ou la reproduction encore une fois?
Bien sûr, parce que en fait, la répétition, elle naît du ressentiment et de l'envie de la vengeance et de la diabolisation de l'autre. Donc c'est en travaillant sur cette diabolisation qu'on peut éviter ce processus de répétition. Et encore une fois, je le répète, je ne veux pas être trop alarmiste en ce qui concerne la situation de la France, mais je suis quand même assez inquiet parce que je me suis aperçu que ces phénomènes de violence collective et de guerre civile mettaient quelquefois 40 ans, 30 ans, 40 ans à couver. C'est-à-dire, il y a des tas de violences plus ou moins, alors à la fois dans les, chez les individus, chez les groupes, et un jour ou l'autre, quand un gouvernement donne une autorisation de tuer, là, effectivement, il y a des guerres et des guerres civiles. Et moi, je constate que la situation en France est très préoccupante parce que ces sentiments de haine et de méfiance entre groupes sont très présents. On dit toujours, on nous fait croire par exemple que la montée du Front National est liée aux difficultés économiques, à l'Europe, etc. En réalité, non, on a un conflit ethnique en France qui se prépare, qui est déjà à l'œuvre, et la plupart des gens qui votent Front National sont animés par une haine qui a aussi sa haine équivalente de l'autre côté, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que d'un côté, il y a les électeurs du Front National qui sont des méchants. J'ai écrit un livre, d'ailleurs, sur ces électeurs du Front National pour expliquer un peu ce qui se passait en eux. Mais il y a dans notre pays, il y a des haines qui montent et dont, si on ne s'occupe pas, si les thérapeutes ne s'occupent pas de faire quelque chose, eh bien, le bienfait de tout ce qu'on peut faire en thérapie individuelle sera effacé par un déferlement de violences collectives comme on l'a connu en Europe, comme on en connaît au Moyen-Orient actuellement ou en Afrique. Je disais, en Afrique, on n'en parle pas beaucoup, mais quand même 5 millions de morts, je ne sais pas combien de viols en 20 ans. Et bien sûr, il y a ce qui se passe aussi dans d'autres pays comme la Syrie ou l'Algérie il y a quelques années. Tout ça est à l'œuvre. Et donc, je pense que les thérapeutes ont une mission aujourd'hui qui est une mission qui est à la fois individuelle et collective, et parce que les deux vont ensemble. Je veux dire, ce sont tout ce que j'ai expliqué sur les conséquences des violences que nous subissons qui sont à la racine des violences collectives. Et c'est vrai dans les banlieues. On voit bien comment les violences que les gens vivent dans leur vie à l'école, dans leur vie avec la famille, etc., sont à l'origine de la haine et de la diabolisation des autres groupes et
Charles, la tentation totalitaire. C'est tellement passionnant que c'est difficile de vous arrêter. Oui, il y a une ultime question d'un intervenant neurologue et psychothérapeute. Alors, comme il était intervenant, je lui laisse, je ne veux pas qu'il reparte frustré. Les autres, ça m'est égal.
J'avais deux questions, mais je vais m'en limiter à une, et c'est un peu personnel, et je comprenais que vous ne voudriez pas répondre, mais comme vous avez commencé avec votre propre expérience,
oui.
Je suis curieux, et puisque ça m'a profondément intéressé, de savoir où vous en êtes, vous, maintenant, dans votre regard sur les gens qui ont, les nazis, qui ont fait ce qu'ils ont fait, comment, où est-ce que vous en êtes Et je peux comprendre que ce soit OK de ne pas répondre.
Non, c'est pas, j'ai aucun problème avec ça. Mon beau-père est un ancien nazi. J'ai connu dans ma propre famille quelqu'un qui avait été soldat de la Wehrmacht en Pologne et en Russie, qui était mon beau-père. Donc j'ai eu très tôt, j'ai appris à connaître l'humanité de cet homme et appris à comprendre aussi à travers mon travail comment il en était arrivé, comment on arrive à ça. En parlant aussi avec les Rwandais, les Yougoslaves, les Guatémaltèques, etc., j'ai réussi aussi à comprendre et à donner du sens à ce qui est à l'origine justement des violences lorsque les conditions de peur sont réunies. Enfin, toutes les conditions, je ne vais pas revenir sur... Il y a un certain nombre de conditions dans la sociétale qui doivent être réunies pour que les gens mettent en action leur tendance destructive. Je raconte toujours, j'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle m'a frappé, que dans une petite ville que je connais, comme Joigny en Bourgogne, il y a un marché, et dans ce marché, il y a un étalage de bandes dessinées qui est très couru. Les gens achètent des bandes dessinées, les habitants de Joigny sont des bandes dessinées qui dépeignent des massacres, qui dépeignent comment on peut éventrer des femmes, leur couper les seins, etc. Et c'est très couru, très demandé. Donc ça veut dire que ces habitants d'une petite ville de province de Joigny, ils existent, ils sont là, et ils ont d'une façon extrême ce désir de meurtre, qui est la conséquence, évidemment, comme je l'ai expliqué pendant toute mon allocution, des souffrances subies et des traumatismes subis. Ils ont ça en eux. Et tant qu'il n'y a pas de permission officielle qui est donnée de passer à l'action, ils ne passent pas à l'action, comme d'ailleurs beaucoup de gens de banlieue qui sont aujourd'hui en Syrie, eux sont passés réellement à l'action. Et si je parle de tout ça, c'est non pas pour stigmatiser telle ou telle partie de la population, mais pour dire que tout ça existe et le thérapeute doit être préoccupé par ça et doit voir, vraiment voir le rapport qui existe entre l'individu et le collectif, et de ne pas se contenter simplement d'oublier à quel point nous sommes à la fois responsables, victimes et auteurs de violences dans la société.
Merci, merci Charles. Ça pourrait faire l'objet d'un prochain colloque sur la dimension psychosociale, peut-être.
Absolument, je suis partant.
Bon, merci beaucoup.
Je laisse la place. Hein.
C'est très frustrant, hein, trois quarts d'heure finalement.
Ah bah oui.
En tout cas, vraiment merci d'être venu. Je sais que vous êtes très pris et très demandé, notamment par nos politiques. Ce serait bien que nos politiques conscientisent tout ça.
Bon.
Ce sera un autre sujet.
C'est un autre sujet.
Alors oui, j'ai oublié de vous informer qu'il y avait une petite intervention entre Georges Elias Sarfati et Jacques Lecomte, parce que Jacques Lecomte avait un engagement auquel il pouvait se soustraire et les programmes étaient déjà publiés. Donc j'ai demandé à Georges si ça ne l'embêtait pas d'intervertir avec Jacques et ça ne posait pas de problème. Donc Jacques va arriver tout à l'heure pour après la pause, ou avant la pause, je ne sais plus. Enfin, après Georges, en tout cas. Donc, nous enchaînons. Je sais que c'est très dense, mais c'est comme ça les colloques. J'en profite pour dire que ce ne sont pas des formations, les colloques. On ne peut pas tout approfondir. L'idée, c'est plutôt de communiquer des flashs, des choses que vous ne trouvez pas ailleurs. Et je sais que c'est frustrant. Alors, je vais vous présenter Georges Elias Sarfati, qui va nous parler donc du vécu traumatique et de la reconstruction du sens avec le point de vue de l'analyse existentielle et plus spécifiquement de Viktor Frankl. Oui, j'ai oublié de mettre le nom.
Bon, chers amis, mesdames et messieurs, chers collègues.
Mais je vais quand même vous présenter,
ah,
Georges.
D'accord, bon, très bien, oui. Enfin, remarquez, le programme est très bien fait. Hein.
Oui, c'est vrai, vous pouvez lire finalement. Enfin bon, Georges est professeur des universités dans les sciences du langage et il s'est formé à la logothérapie. Il a postfacé le livre de Viktor Frankl, Le Dieu inconscient, que vous trouverez en librairie. La postface est en soi très intéressante. C'est un commentaire de la thérapie existentielle, la logothérapie. Et qu'est-ce que je peux dire d'important rapidement encore ? Vous êtes psychotraumatologue, vous vivez à Jérusalem et vous êtes très impliqué dans une association de victimes, comment on dit, l'association franco-israélienne,
oui,
de victimologie.
C'est ça.
C'est ça ?
Oui.
Donc, le conflit israélo-palestinien, vous connaissez bien. Alors, je vous laisse poursuivre dans cette question du sens.
Alors, merci. Je dois dire que le hasard, si tant est qu'il existe, fait bien les choses. Je suis très content d'intervenir après l'exposé que nous venons d'entendre, parce que vous verrez qu'il y a des résonances importantes. Je crois effectivement que cette dernière partie de notre colloque a explicité délibérément la problématique du sens qui était implicite, tacite et courante à travers toutes les autres interventions. Mais là, on approche sans doute d'un moment d'explicitation important. Alors, Viktor Frankl n'est pas un inconnu, sauf en France, naturellement, dans le champ de l'analyse et encore moins dans le champ psychiatrique. Tout comme Paul Schilder, auquel le professeur Krock faisait allusion hier, Frankl était un élève de Freud et de Husserl. Donc, il appartient à cette double confluence de ce qu'on appelle la psychiatrie phénoménologique ou la phénoménologie psychiatrique. Et il est le pionnier et le fondateur de l'analyse existentielle et de la logothérapie. Pourquoi distinguer les choses de cette façon? Disons, pour faire vite, que l'analyse existentielle, l'existential analyse au sens de Frankel, je dirais que c'est la matrice philosophique et anthropologique de sa clinique, et que la logothérapie fonde, à proprement parler, la dimension clinique de l'analyse existentielle. Logothérapie se définit, Frankel le définit ainsi, comme une thérapie centrée sur le sens, du grec logos, dont on sait que c'est un terme polysémique qui désigne aussi bien la rationalité que la parole, en effet, que le sens. Donc c'est une maïeutique, et Frankel est sans doute le premier à avoir théorisé, bien avant les psychologies dites humanistes, l'importance du dialogue socratique dans la conduite de l'analyse. Alors, c'est aussi, pour faire des parallèles utiles avec des auteurs qui vous sont sans doute mieux connus, un des rares tenants, je dirais, d'une anthropologie spiritualiste, comme Paul Deal, le fondateur de la psychologie des motivations, ou Roberto Assagioli, le fondateur de la psychosynthèse. La particularité de Frankel, c'est finalement d'avoir mis en évidence ce qu'il appelle la dimension noétique, c'est-à-dire spirituelle, de l'être humain. À propos des raisons, je dirais, historiques, autant que culturelles et contextuelles, je vais partager mon exposé en deux parties bien distinctes. Une première partie, dont j'espère que vous n'en voudrez pas, qu'elle revête un caractère un peu didactique. Il faut exposer les principes et les notions fondamentales de Frankel. Et une deuxième partie relative à l'usage que Frankel a fait et que depuis lui l'on peut faire de sa clinique dans le traitement du psychotrauma. Frankel, de facto, est un pionnier de la psychotraumatologie, avant même que ce champ émerge comme domaine à part entière, comme clinique spécifique, puisqu'il est né en 1905, il est décédé en 1997, et que, jeune psychiatre, il a été déporté avec sa famille, ses parents, sa femme, son frère, et qu'il est le seul rescapé de ce groupe. Il a été déporté à Auschwitz, c'est un rescapé d'Auschwitz où il a passé plusieurs mois juste avant la libération. Donc Frankel sait de quoi il parle lorsqu'il parle de thérapie centrée sur le sens, et il a donc traité, dès après la libération, par centaines des gens qui étaient des rescapés de la guerre. Pas forcément des camps de concentration ou des camps de la mort, mais de la guerre de manière générale. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la réélaboration de sa clinique, il a été amené toujours à se confronter à des cas humains et des cas cliniques qui jouxtaient l'expérience des limites et puis l'expérience de l'absurde. Des cas de patients en phase terminale, des cas de patients lourdement handicapés, des cas de victimes de violences collectives. Donc de ce point de vue-là, c'est un modèle très préadapté à penser la souffrance humaine dans son caractère le plus aigu. Alors pour Frankel, être humain, c'est une notion qui doit s'entendre non pas comme un substantif, mais au sens verbal. Être humain, c'est être précisément une dimension active de l'être. Et de ce point de vue-là, il reconnaît à cette dimension noétique deux aptitudes. L'être humain est par définition un être capable de se dépasser et en même temps capable de se distancier. On comprend que cette dimension permet à Frankel de repenser et de refonder le concept freudien d'inconscient, puisque lui va parler d'inconscient noétique ou d'inconscient spirituel. Autrement dit, les grandes aspirations de l'individu lui sont secrètes, et c'est l'analyse existentielle qui lui permet, dans certains cas, pas toujours, puisque tout le monde n'est pas en analyse et tout le monde n'a pas besoin d'une analyse, de mettre au jour, d'élucider ses aspirations et de finalement pouvoir se projeter en direction d'un chemin d'accomplissement. Alors, Frankel, du point de vue philosophique et anthropologique, toujours, caractérise ainsi les coordonnées de la condition humaine. Il y a ce qu'il appelle une triade anthropologique fondamentale. Il réaffirme, et c'est très intéressant, lui-même insiste sur, je dirais, la singularité de cet éclairage après Freud, sur le fait que l'être humain est un être conscient, sans doute le seul dans l'ordre du vivant, que c'est un être libre et c'est un être capable de volonté. Bien entendu, il ne s'agit pas de la réaffirmation d'un humanisme classique ou pré-freudien, mais de la réaffirmation de ces trois postulats de l'humanisme après Freud. Autrement dit, conscience, liberté et volonté doivent être éclairés dans la perspective de l'apport freudien. D'autre part, ce qui caractérise la condition humaine, c'est ce que Frankl appelle également la triade tragique, c'est-à-dire le fait que la condition humaine est saturée par l'expérience de la souffrance, de la culpabilité et de la finitude comme appréhension singulière de la mort. De ce point de vue-là, ces sources sont évidemment philosophiques. Il fait fond aussi bien sur Pascal que sur Kierkegaard et bien entendu la tradition biblique qu'il connaît très bien. Enfin, Frankl affirme les caractéristiques fondamentales de ce qu'il appelle la triade existentielle. L'être humain est doté d'une volonté libre, il est mu par une volonté de sens, et ce sens, c'est celui qu'il attribue à sa propre vie. Donc on a là, si vous voulez, les cadres fondamentaux de l'analyse existentielle. En tant que penseur qui appartient à la mouvance phénoménologique, Frankl se situe donc dans l'affirmation du primat de l'expérience subjective, du primat du monde vécu, du primat de ce qu'on appelle la donation de sens, c'est-à-dire que tout rapport au monde, entre guillemets, normalement constitué, et même s'il y avait une défaillance de la présence au monde, est une source de donation du sens, et de plasticité de la personne. Donc c'est très important, la notion de plasticité de la personne, notion que Frankl a en commun avec les auteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, Paul Deal, ou bien Roberto Assagioli, et de nos jours, Reuven Feuerstein, qui travaille sur des handicaps très lourds, aussi bien cognitifs que sensorimoteurs. Bon. Il y a une caractéristique importante de Frankl, c'est sa contribution à la redéfinition ou à la meilleure compréhension, une compréhension différente de la souffrance, et notamment de la souffrance psychique. Frankl postule que chacune et chacun d'entre nous est doté d'une dynamique existentielle, qu'il appelle la dynamique noétique, c'était la dynamique spirituelle. La motivation principale de l'être humain pour Frankl, c'est la quête de sens, la volonté de trouver un sens, de fonder un sens. Alors il rappelle que cette motivation principale peut avoir deux expressions qui sont deux modalités radicale de cette motivation princeps, à savoir le principe du plaisir, qui est au fondement de la psychanalyse freudienne, ou le principe de compensation de l'infériorité qu'on retrouve chez Adler. Néanmoins, dit Frankl, ces deux modalités sont des modalités extrêmes. Fondamentalement, tout individu est porté à définir un lieu d'accomplissement qui se situe au niveau des plus hautes exigences. Alors, qu'est-ce que c'est que la maladie et qu'est-ce que c'est que éventuellement les signes de dépression, effectivement, c'est, dit Frankl, une atteinte à la dimension noétique. C'est-à-dire que la dynamique existentielle est susceptible d'être frappée d'invalidité, d'être cassée, d'être mise en cause, de rencontrer des obstacles qui sont, par degrés, soit à l'origine d'une frustration existentielle, soit à l'origine d'une détresse existentielle, soit à l'origine d'un vide existentiel. Donc on a là trois degrés de souffrance psychique, c'est-à-dire une mise en crise du principe de sens. Et c'est cela, dit Frankl, qui est à l'origine de la plupart des pathologies. Et c'est un modèle très intéressant parce qu'il intéresse au premier chef la psychosomatique. Alors évidemment, cette perspective va amener Frankl à conceptualiser sa compréhension de la dynamique existentielle et de la crise ou de la mise en crise de la dynamique existentielle par un concept qui est le concept majeur de sa clinique, qu'il appelle la névrose noogène, c'est-à-dire la perturbation du principe de sens. Tout à l'heure, nous évoquions la dimension psychosociale des perturbations et des pathologies. Frankl a un point de vue extrêmement intéressant là-dessus, sa contribution est majeure. Il considère que la période de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre, avec l'émergence systématique de la société industrielle, qu'elle soit libérale ou collectiviste, est à l'origine d'une crise de sens grandissante et croissante de nos sociétés, et que la névrose noogène est en quelque sorte la névrose collective du monde moderne et postmoderne. Cette névrose noogène s'articule, du point de vue de ses déterminations collectives, à ce qu'il appelle d'un côté le conformisme, qui est le propre des sociétés consuméristes, ou le totalitarisme, qui est le propre des sociétés policières. Dans un cas comme dans l'autre, ces formes, ces constructions idéologiques sont des matrices de pathologie collective, puisqu'elles sont en quelque sorte des atteintes directes à l'anodynamique des personnes. Et par conséquent, elles se fondent aussi sur des mécanismes d'identification, de séduction, qu'ils soient consensuels ou coercitifs, qui sont de nature véritablement à pousser les individus et les groupes dans la pathologie, c'est-à-dire dans différentes formes d'aliénation qui ont des conséquences sur la santé mentale individuelle et publique. Je voudrais maintenant aborder la problématique de la clinique de l'algothérapie en tant que clinique et examiner à la lumière de ses principaux postulats la façon dont le psychotrauma peut être pensé et élaboré. La conduite de l'analyse, ou plus exactement de la logo-analyse, repose, je l'ai indiqué en début, sur l'usage du dialogue socratique. Le dialogue socratique que Frankel a codifié de manière très précise et cette méthode lui a été empruntée par la psychologie humaniste, puisque Frankel a été invité aux États-Unis au moment où les premiers grands théoriciens de cette école, de cette troisième mouvance, finalement, articulaient leurs propres concepts. Et il faut rappeler ici que les grands auteurs de la psychologie humaniste sont soit des élèves de Adler et de l'enseignement, des héritiers de l'enseignement américain d'Adler, soit des élèves d'Otto Rank qui avaient aussi fait école et dont je vous rappelle que l'explication que Rank donne de la souffrance de la névrose principale, c'est la frustration de la créativité. Donc il y a de très grands échos entre ces différentes conceptualisations. Le dialogue socratique doit consister à amener la personne que l'on a en face à identifier la situation dans laquelle elle se trouve, à évaluer ses propres ressources, mais également, de façon réaliste, ses possibilités. Les principes que l'on a rappelés au début de l'exposé, s'agissant de la liberté, de la conscience et de la responsabilité, trouvent ici leur lieu de concrétisation et d'actualisation, puisque la finalité de toute logo-analyse pour Frankel, c'est d'amener non pas seulement à émanciper le sujet ou à lui faire retrouver sa liberté d'action, mais également à l'aider à concrétiser cette liberté, c'est-à-dire à faire que cette liberté s'articule à un choix et se traduise comme une prise de responsabilité. Et c'est à partir de ce moment que la notion de suivi dans la logothérapie prend tout son sens. Je ne peux pas rentrer ici dans le détail des modalités spécifiques du transfert, ni même des méthodes, mais il y en a d'innombrables, de la logothérapie. Je me contente d'exposer les principales notions. Il y a enfin et surtout ce que Frankel appelle la clinique des orientations de sens. À partir du moment où on postule que tout sujet est mu par une quête de sens, la problématique du sens trouve ici sa pleine définition, relève du sens et plus particulièrement du sensé ou de ce qui est sensé pour un sujet et une personne donnée, ce qui a de la valeur à ses yeux. Je pense qu'il est très important de mettre en évidence ces deux prédicats, que la notion de sens pour l'humain est indissociable de la notion de valeur et plus particulièrement de la notion de valorisation. Les trois grandes orientations de sens consistent ou correspondent plus exactement à trois groupes de valeurs que Frankel identifie comme les valeurs d'expérience, les valeurs de création ou les valeurs d'attitude. Les valeurs d'expérience privilégient en quelque sorte tout ce qui est de l'ordre de l'implication du sujet dans un type ou des formes de relations privilégiées, de la relation amoureuse à la relation de solidarité sociale, donc la socialisation, dont il a été beaucoup question dans l'exposé précédent. Les valeurs de création consistent à développer une œuvre, que cette œuvre soit d'ordre artistique ou que le sujet considère que son travail est un accomplissement et le lieu d'une œuvre. Et les valeurs d'attitude, Frankel les définit comme les plus hautes valeurs qui soient, ce sont les valeurs par lesquelles un sujet accepte de s'affronter à la souffrance. C'est extrêmement important parce que ça me permet de préciser ici que cet affrontement, cette confrontation à la souffrance n'est pas une confrontation en quelque sorte de la liberté gratuite en face de son propre vertige, mais que pour Frankl, l'idée même qu'il puisse y avoir confrontation du sujet à sa souffrance présuppose qu'il y a une relation de transitivité dans la souffrance. On ne souffre jamais pour rien, c'est-à-dire que l'on souffre au nom de quelque chose ou pour quelque chose ou pour quelqu'un. C'est à cet endroit que Frankl s'avère le plus pertinent par rapport au trauma en particulier, en tout cas pour ce qui est de supporter une souffrance inévitable dans un premier temps du traitement, dans la mesure où cette attitude permet aussi de mettre en perspective les autres possibilités dans l'ordre des valeurs. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que pour Frankl, la hiérarchisation des valeurs est tout à fait subjective. Lui ne considère pas qu'il y a des valeurs qui vaillent mieux que d'autres, mais c'est le sujet qui introduit une hiérarchisation dans l'ordre des valeurs et qui affirme celles qui ont un sens pour lui. Comment la logothérapie aborde-t-elle la question du trauma ? Là, nous allons développer quelques idées qui sont en résonance avec ce qui a été dit hier et ce matin, s'agissant des acquis et des conquêtes thérapeutiques que garantissent les modèles bien connus, répertoriés par les différentes conférences de consensus. D'abord, qu'est-ce que le trauma dans la perspective spécifique de l'analyse existentielle et de la logothérapie ? La première chose que l'on doit dire, compte tenu des prémices philosophiques de Frankl, c'est qu'un trauma, un psychotrauma, c'est de toute façon une rupture dans le mouvement de l'existence. C'est la première chose que l'on doit avoir à l'esprit, et que plus particulièrement, il s'agit d'une rupture, voire d'une interruption brutale, c'est-à-dire à la fois soudaine et violente, de ce que Frankl appelle la noodynamique, la dynamique existentielle et spirituelle. Évidemment, la perspective logothérapeutique présuppose la validité des autres cliniques et présuppose évidemment tout ce que l'on peut connaître en termes de clinique spécifique du psychotraumatisme, et en particulier, Frankl en était conscient à son époque, de ce que Fenichel, ça l'a été rappelé hier matin, appelle les trois blocages du moi, c'est-à-dire le blocage de la fonction de filtrage relativement à soi, relativement au monde et relativement aux autres. On sait en même temps, par les théorisations contemporaines de la psychotraumatologie, je pense aux travaux de Judith Herrmann et de Janoff Bühlmann, que, et cela fait écho à cette notion de rupture de la dynamique spirituelle, que ce qui est en cause immédiatement dans l'expérience psychotraumatique, c'est la pulvérisation des croyances fondamentales, c'est-à-dire, à tout le moins, la mise en cause radicale de ce que Erik Erikson appelle la confiance fondamentale dans le monde et dans les autres. Enfin, le trauma, pour reprendre le vocabulaire de Viktor Frankl, est le lieu même de l'actualisation de cette triade tragique, la souffrance, la culpabilité et la mort. C'est-à-dire que toutes les caractéristiques de la névrose traumatique que l'on connaît bien à travers la clinique des états de stress, c'est-à-dire l'intrusion, l'hyperactivité neurovégétative et les stratégies d'évitement, se doublent dans la perspective de la logothérapie, dans tous les cas, d'une névrose noogène, c'est-à-dire d'une perte de sens et, d'une certaine façon, d'une confrontation avec le réel de la mort liée aux expériences de l'effroi et de l'impuissance. Mais ce qui résulte de la pulvérisation des croyances fondamentales à travers les symptômes graves de la névrose traumatique, c'est bel et bien la névrose noogène. Bien plus que dans toute crise existentielle qui, en quelque sorte, se développerait indépendamment d'un choc traumatique d'envergure. Donc cette notion de névrose noogène, on doit aussi l'appréhender à partir des catégories et des typologies du psychotraumatisme, c'est-à-dire que cela vaut avec des degrés d'intensité variables, aussi bien pour les traumas de type 1 que pour les traumas de type 2. Et cette névrose noogène qui accompagne la névrose traumatique est d'autant plus violente qu'elle est le résultat d'une effraction traumatique de type intentionnel. Et là, je veux parler évidemment des phénomènes de violence collective qui, de fait, touchent radicalement les groupes et les individus. Je dois dire que moi-même, ce qui m'a amené à m'intéresser à Frankel, bien que je l'avais lu très jeune et donc que je n'en avais pas fait un usage autre que culturel et intellectuel, c'est effectivement une expérience personnelle de très grave psychotraumatisme dont je pourrais bientôt fêter les 20 ans, et qui s'est passé à Tel Aviv, une explosion du bus numéro 5 en septembre 1993. Alors, cette problématique de l'atteinte noogène se manifeste effectivement comme un effondrement du monde subjectif, comme un effondrement du monde subjectif qui, en quelque sorte, atteint d'abord la base psychosomatique, si on reprend le schéma de Frankel. Et Frankel rappelle très justement, dès les années 50, que la névrose noogène, qu'elle soit individuelle ou collective, à plus forte raison collective, est à l'origine des nouvelles pathologies, ce qu'il appelle la triade pathogène, c'est-à-dire des nouvelles formes de dépression, des nouvelles formes de violence, auto-agression ou hétéro-agression, et des différentes addictions. Alors, quel est l'apport de la logothérapie au psychotrauma? Il faut d'abord préciser, en rappelant la position même de Frankel, que relativement à cette souffrance spécifique, la logothérapie se présente comme une thérapie complémentaire. C'est très important de le souligner, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas traiter en logothérapie un sujet qui est en état de choc et qu'il a besoin d'être stabilisé. Donc la logothérapie, dans ces cas-là, suppose l'apport de la pharmacothérapie et l'apport simultané des autres thérapies qui sont de fait toutes désignées pour se confronter à la résolution des symptômes, mais également pour assurer la stabilisation en première approximation, la stabilisation psychosomatique du sujet. L'intervention logothérapeutique sous le rapport de la clinique du psychotraumatisme suppose donc toutes ces formes d'intervention avec lesquelles vous êtes familier et familière et qui nous ont été exposées avec talent depuis hier matin. Il s'agit aussi de considérer que la logothérapie donc vient en complément soit pendant, donc de manière dans une forme de simultanéité avec les autres thérapies, soit après, une fois que les sujets sont stabilisés. En fait, il faut bien faire la différence entre l'apport des modèles spécifiques qui ont pour vocation et pour résultat effectif de, en quelque sorte, reconnecter le sujet à sa réalité, c'est-à-dire de restaurer le fonctionnement psychosocial du sujet, et l'apport logothérapeutique qui permet un redéploiement du projet existentiel. Ce sont deux choses tout à fait distinctes et il est très important d'y insister ici. Alors je voudrais faire état ici, non pas de cas cliniques que je traite moi-même, mais d'une étude qui a été faite après plusieurs années, donc ce sont des résultats d'enquête, par une équipe de psychiatres américains dans le contexte du Connecticut Veterans Hospital, c'est-à-dire un hôpital spécialisé dans le traitement des vétérans des guerres nord-américaines, à commencer par les vétérans du Vietnam en situation de troubles post-traumatiques chroniques. Donc ça fait quelques décennies que ça dure. Alors depuis 2006, l'équipe en question a mis en place des programmes thérapeutiques dans des perspectives assez différentes. D'abord, un programme de 4 mois avec des patients internes. La période de traitement de programme thérapeutique se divise ainsi. La première semaine est consacrée à une familiarisation des sujets avec les principes de la logothérapie. Donc, ce que j'ai fait avec vous au début de l'exposé, l'anthropologie de Frankel, la triade tragique, la triade anthropologique, la triade existentielle. On leur donne quelques minutes de réflexion, c'est un travail de groupe, sur une des caractérisations de ce qu'est l'existence pour Frankel. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette notion de liberté de la volonté de sens de la vie? S'ensuit une discussion en groupe, sous la conduite du thérapeute, sur l'une de ces notions. Et après ce travail préalable d'élaboration, les semaines suivantes, les 3 semaines suivantes, sont consacrés à répondre aux défis que chacun doit affronter s'agissant de l'épreuve de sa propre souffrance, à partir des méthodes qui se sont avérées finalement pertinentes pour ceux qui ont pu expérimenter cet examen collectif de la pertinence de ces principes. En fait, il s'agit dans tous les cas, là on est dans un travail collectif, d'amener les sujets d'abord à passer du statut de victime au statut de rescapé, mais surtout de faire comprendre et de leur faire comprendre qu'ils ont la possibilité et qu'ils sont même les véritables experts de leur traumatisme. C'est-à-dire que le fait de passer du statut de victime au statut de rescapé puis d'expert de leur propre souffrance les met en chemin vers la possibilité d'un travail de socialisation. Puisqu'ils sont experts de leur propre trauma, ils sont donc en mesure de venir en aide à ceux qui, plus récemment arrivés ou plus récemment impactés en quelque sorte, sont dans la découverte brutale de ce qu'est ce type de souffrance.
Georges, oui, juste me permettre de vous interrompre pour savoir si vous accepteriez quelques questions.
Absolument, absolument. Il est le quart, je sais que jusqu'à 30 et dans 5 minutes, vous aurez 10 minutes de questions.
Voilà, donc on a un petit peu de retard, mais comme on avait une table ronde conclusive à
absolument
la fin, on pourra
écouter. Oui, bien sûr. Je l'ai inclus dans le temps de parole, naturellement.
Donc,
oui.
Je vous laisse quelques minutes pour
finir. Oui, 5 minutes pour finir, et puis nous aurons un temps de débat.
D'accord.
Oui, tout à fait. Alors, pratiquement, cela fait que chaque participant à ces groupes de programmes logothérapeutiques, on leur recommande de consacrer 10 à 20 heures de leur temps hebdomadaire à aider les autres. Alors bon, je passe sur les cas individuels qui constituent ces groupes, mais on a des cas évidemment sévères de gens qui sont isolés, qui sont en rupture de ban, qui sont à l'hôpital depuis des années, qui ont perdu leur famille à cause de divorce la plupart du temps, qui sont dans des situations de polyaddiction. Et il se trouve que ce programme, peu à peu, permet une resocialisation graduelle, d'abord à l'égard de ceux qui entrent, mais également ensuite à l'égard des habitants de la ville, puisque une autre partie du programme consiste aussi à mettre en œuvre des initiatives collectives, là aussi qui fait appel à ce que les psychotraumatologues appellent l'expertise du trauma. Il y a des situations qui sont émouvantes, ce sont des gens qui ont combattu au Vietnam, qui ont combattu en Asie, et voilà qu'on leur suggère d'aider des réfugiés vietnamiens à constituer une association. Donc ils sont amenés à entrer en contact, et ça nous rappelle ce qui a été dit précédemment, cette dimension de thérapie sociale. Et effectivement, la résolution de la souffrance se fait très souvent au bénéfice d'une socialité et d'une socialisation recouverte. Et puis, bien entendu, on a le traitement individuel, exemple de soldats qui faisaient partie du service de santé des armées et qui ont été très fortement impactés et qui sont dans des situations de dépression très graves avec angoisse massive et qui considèrent, je cite, que la vie est une épreuve de souffrance dépourvue de sens. Et assaillis par la culpabilité, non pas parce qu'ils ont commis des atrocités, mais parce qu'ils ont été impuissants à sauver des enfants. Ils considèrent que donc leur activité n'a pas le moindre sens. Alors évidemment, travail de thérapie, d'évaluation des contextes, d'évaluation, d'analyse du sujet, pour lui faire comprendre que finalement, il faut aussi se départir d'un fantasme de toute puissance qui, déçu, peut faire sombrer dans la dépression. Il était impossible de venir en aide à ses enfants ou à ses personnes dans des contextes aussi chaotiques. Bon, un travail d'analyse très spécifique permet de remettre ce soldat qui est un médecin ou d'autres qui sont des infirmiers au contact de personnes ou d'enfants dont les situations ressemblent aux personnes qu'ils n'ont pas pu aider lorsqu'ils étaient dans des contextes de guerre, et donc à faire renaître la possibilité d'une activité sensée à leurs yeux, puisque cela les reconnecte à leur choix de valeur initiale, et en même temps avec ce point de vue réaliste, qui est aussi une façon de réintégrer et de décanter l'expérience traumatique. Enfin, quelques propositions pour mieux caractériser ce concept de sens, et mieux faire le départ ici entre la contribution des thérapies fondamentales à la réarticulation du sens, et la contribution de la logothérapie à la réarticulation du sensé. Il semble que le succès et la réussite des modèles thérapeutiques efficaces, reconnus pour leur efficacité dans le traitement du psychotrauma, est dû au fait qu'ils sont en mesure d'apporter la stabilisation de l'état psychosomatique, c'est-à-dire de renouer, d'un point de vue phénoménologique, les sujets avec l'espace de la sensibilité, donc de la cohésion psychosomatique. D'autre part, comme Madame le disait hier, de réinscrire le trauma et l'épreuve de la souffrance dans leur biographie, ce qui fait appel à la dimension de la signification, donc restituer la cohérence psychosociale. Ça, c'est pour l'acquis des thérapies fondamentales et classiques. Maintenant, ce que la logothérapie ajoute à cette stratification du sens, sensibilité, sans signification, réintégration dans l'espace biographique, c'est la notion de sens comme direction ou comme orientation. C'est-à-dire que l'intégration personnelle du trauma se fait au bénéfice d'une réélaboration du projet de vie. Et en réalité, on passe d'une notion de sens liée à une notion de vie, de bios, si vous voulez, de bios et de psychosomatique, à une notion d'existence, comme redéploiement, et non pas le sens de l'évidence sensible ou de l'évidence sémantique, mais le sens comme orientation valorisée de l'existence singulière. Merci de votre attention.
Merci, Georges. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui, une, Nicole.
Tout d'abord, je voudrais vous remercier de cet exposé très clair. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, bien sûr, c'est cette quête de sens. Et j'aurais aimé avoir peut-être quelques éclaircissements. Est-ce que cette quête de sens au niveau individuel s'inscrit dans un sens global d'évolution, d'évolution de l'humanité ? Premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'on pourrait, et je ne sais pas si je m'interroge, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec la vision jungienne du soi et de la réalisation de ce grand soi qui est un objectif profond de chaque être et qui pourrait rejoindre le sens de notre existence ?
Est-ce que vous voulez que je prenne toutes les questions et que j'y réponde, ou bien au coup par coup, qu'est-ce qui est mieux ?
On peut peut-être prendre toutes les questions.
Oui, d'accord.
Je ferai
oui.
Une réponse globale. Oui. D'accord. Alors, pas toutes ?
Bon, je réponds à la question. Alors, en fait, la question de la quête du sens dans le devenir évolutif de l'humanité... Frankel n'a pas d'approche, je dirais, éthiologique ou génétique sur cette question. Il pose la dimension noétique dans une anthropologie qui est renouvelée et qui, en fait, il n'en est même pas, disons, le théoricien, puisqu'il reprend cela non pas à Husserl, mais à Max Scheler, et en particulier au texte de Scheler intitulé « Situation de l'homme dans le monde », où lui, par contre, Scheler a une réflexion sur cela. Et il élabore la notion de dimension noétique en relation avec une perspective évolutionniste. Et la définition que donne Scheler est très intéressante. Il dit qu'il convient de distinguer la dimension noétique de la dimension psychique parce que pour Scheler, et Frankel reprend cette définition, le psychisme est le lieu de l'intelligence pratique. Alors que la dimension noétique est le lieu, en quelque sorte, de la symbolisation. C'est-à-dire que Scheler met le curseur, question où apparaît la fonction symbolique, dans la dimension noétique. Et précisément, ce qui indique bien que, faisant crédit à un certain nombre de vivants, en particulier aux mammifères dotés d'un psychisme, de la dimension du psychisme, l'intelligence pratique est commune à l'espèce humaine et aux espèces animales dotées d'un psychisme. Donc, c'est très important. Là où l'humanité de l'humain affirme sa singularité, c'est dans la dimension noétique, et Scheler place la dimension symbolique, l'aptitude de langage, à l'autodistanciation, à l'autodépassement, qui sont en même temps au principe de la dynamique analytique, dans le transfert, dans la possibilité du changement, C'est là que Frankel assume l'héritage de Scheller. Mais il n'y a pas chez Frankel en particulier, mais chez Scheller, si, cette notion-là. Sur le rapport à Jung, Frankel a été beaucoup plus soucieux de dialoguer avec ceux qui ont été ses maîtres immédiats, à savoir Freud et Adler, qu'il a fréquenté, connu, et dont il s'est ensuite éloigné, que de Jung. Il n'y a pas chez Frankel de notion d'inconscient collectif. Il n'y a pas. Mais en revanche, on peut considérer que ce qu'il appelle la dimension noétique, effectivement, pourrait être comparé à cette dimension du soi qu'on trouve chez Jung ou chez Assagioli, sous réserve que ce qui reste absolument original chez Frankel, c'est cette anthropologie spiritualiste. Elle n'est pas binaire psychosomatique, elle est ternaire psychosomatique et noétique. Alors que chez Jung, la dimension du soi est une procède de la dimension psychosomatique.
Alors, il nous reste 6 minutes, 7 minutes pour 3 questions identifiées.
Est-ce que la logothérapie se préoccupe des émotions? Et si oui, comment?
Bien entendu, elle se préoccupe d'abord fondamentalement et premièrement des émotions. Pourquoi? Puisque en insistant sur ce que Frankel appelle l'anthropologie dimensionnelle, il prend d'abord en considération le fait que l'émotion et l'intelligence pratique sont premières chez l'être humain, et que la dimension noétique n'est pas une dimension spirituelle abstraite, c'est une dimension qui est éminemment conditionnée par la dimension illéthique, c'est-à-dire par la dimension émotionnelle, par la dimension corporelle. D'autre part, la question du primat de l'émotion est d'autant plus évidente que, pour Frankel, l'existence même est une, en quelque sorte, une entité sensible. C'est l'existence dans le monde, c'est l'existence dans le rapport à soi, dans le rapport aux autres, dans le rapport à l'environnement, au monde de la vie, si vous voulez, au sens fort et au sens, je dirais, non spirituel, précisément. Maintenant, comment ça se joue dans le dialogue socratique, c'est-à-dire que dans le dialogue socratique, on ne considère pas que l'on a en face de soi un esprit pur ou un pur esprit. On considère qu'on a une personne qui est d'abord immergée dans le monde avec ses capteurs sensibles et que tout ce qui meut cette personne, ce sont avant tout des affects, même si l'intelligence permet de les filtrer. Mais bien entendu, l'émotion est première dans la prise en compte et l'expérience du dialogue. Et ça me permet de souligner ici, effectivement, que la question du transfert en logothérapie donne lieu à de très nombreux travaux, qui fait que, de ce point de vue-là, on est assez loin de la conception freudienne du transfert. On préconise un véritable dialogue, et non pas une écoute neutre qui peut, évidemment, confiner à l'indifférence, et dans le cas d'un sujet psychotraumatisé, lui renvoyer une sévère impression d'angoisse de mort. Donc, voilà.
Alors, une avant-dernière question.
Oui, alors, en fait, il y a deux questions. J'aurais aimé une toute petite, une courte et une un peu moins courte. La première, qu'est-ce que vous appelez traumatisme de type 1 et traumatisme de type 2?
Oui.
Et la deuxième, vous avez parlé de culpabilité concernant les soldats, leur impuissance à pouvoir porter secours aux autres. Qu'en est-il de la culpabilité pour les autres psychotraumatisés dans le cadre de traumatismes répétés, je pense à la violence, dans les cadres familiaux, etc., concernant la victime? Voilà.
En fait, vos questions m'amènent à répondre sur le terrain de la psychotraumatologie pure et dure, sans y mêler la logothérapie elle-même. C'est-à-dire que les distinctions de trauma de type 1 et de type 2 sont liées aux typologies en usage, à savoir que le trauma de type 1, c'est un trauma unique, et avec toute la réaction en chaîne que l'on connaît de l'état de stress post-traumatique, alors que le trauma de type 2, c'est la situation traumatique répétée, c'est la réitération. Pour revenir à Frankel, les personnes qu'il traite au sortir de la guerre, les rescapés de camps de concentration ou les survivants des camps de la mort qui ont échappé à l'extermination sont typiquement des profils de trauma de type 2, c'est-à-dire des gens qui ont été exposés quotidiennement à des effractions traumatiques, soit sur leur propre personne, mise en cause gravissime de leur propre intégrité, soit en étant témoin de la mort et de la destruction des autres. Voilà. Maintenant, la problématique de la culpabilité, là, c'est tout simplement la culpabilité soit du survivant, tout simplement, si j'ose dire, soit la culpabilité en regard des exigences idéales que l'on s'était assignées. Prenez le cas de ces infirmiers ou de ces médecins qui se sont trouvés impuissants à venir en aide aux gens qui souffraient ou qui agonisaient autour d'eux. Là, on est dans un cas typique de dénivellation entre l'idéal du moi et puis ce qu'on est en mesure de faire, effectivement. Donc, on est vraiment dans des situations qui relèvent davantage de la psychanalyse classique que de la logothérapie. Quand Frankl parle de la culpabilité, son concept de culpabilité n'est pas à fonder du côté de la culpabilité, en quelque sorte, qui peut se déduire de la tyrannie du surmoi au sens de Freud, c'est la culpabilité au sens philosophique, c'est-à-dire une sorte de, je dirais, d'étalon éthique. Voilà. Ce que l'on attend de soi et ce que l'on a vraiment fait. On est plutôt dans ce registre-là d'une philosophie morale, chez Frankl, en ce qui concerne la culpabilité. Mais dès lors qu'il est question du psychotrauma, on est bien entendu dans la problématique de la culpabilité du survivant. Ouais.
Une dernière question d'un intervenant d'hier, Michel Chitekat.
Oui, quand je vous entendais sur le sens, et M. Rojman aussi sur les sociétés,
oui.
Je me posais la question, est-ce qu'il y a un point de non-retour, en particulier pour les sociétés, parce que Peter Levine pense par exemple que l'être humain va peut-être disparaître comme les dinosaures parce qu'il porte en lui un point de non-retour et de ne pas pouvoir finalement sortir de cette Roma et retrouver du sens.
De ne pas sortir d'eux ?
De cette Roma et retrouver du sens et être dans des sociétés qui deviennent tellement chaotiques qu'elles se délitent. Et c'est intéressant de voir qu'on fait appel à des intervenants extérieurs.
Oui, absolument.
Comme s'il n'y avait plus un Rwandais qui pouvait lui-même autogérer la situation.
Oui, votre remarque et votre question sont intéressantes parce que Frankl, la dimension psychosociale, voire psychopolitique de la logothérapie est très importante. Il ne faut pas la négliger. Frankl développe une philosophie optimiste de la personne, mais je dirais une philosophie sceptique, voire pessimiste du collectif. Non, mais ne riez pas, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a de clinique que du singulier. C'est pour ça que l'idée de sociothérapie est tout à fait remarquable, parce que c'est l'idée de convoquer le collectif ou par agrégation progressive des groupes. Et là, ça me fait penser qu'effectivement, on peut aussi infléchir la perspective logothérapeutique dans le sens d'une sociothérapie, mais sans oublier aussi le fait que le thérapeute, il intervient sur des entités singulières, si vous voulez. Et alors évidemment, si on veut changer le monde, et je suis tout à fait partant pour le faire, il faudrait aussi introduire la théorie critique de la valeur travail, la mise en cause de la barbarie capitaliste, qu'elle soit de droite ou de gauche, parce que ce sont tous ces mécanismes qui sont aussi des facteurs de violence collective. Oui. Je pense qu'il faut récupérer les dimensions du freudo-marxisme reichien, ou Marcuse, si on veut aller dans ce sens. C'est fondamental. Donc, on ne peut pas être thérapeute et indifférent aux politiques ou à l'économique. C'est impensable.
Un beau sujet futur de colloque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges. Donc, je vous propose de faire 20 minutes de pause. Ensuite, on enchaîne avec l'intervention de Jacques Lecomte. Et puis, Pierre Canouilly et moi-même conclurons ce colloque très rapidement pour que vous puissiez partir à 18h.